Ivanhoé, chapitre 12. L'aube apparut, pure et sans nuages, et avant que le soleil se fût élevé sur l'horizon, les plus paresseux comme les plus empressés des spectateurs se montrèrent dans la plaine, s'avançant vers la Lys comme vers un centre commun, afin de s'assurer une place favorable pour voir la continuation des jeux attendus. Les maréchaux du camp et leurs serviteurs vinrent ensuite, accompagnés des héros, pour recevoir les noms des chevaliers qui se proposaient de jouter, en indiquant le parti auquel chacun désirait s'attacher. Cette précaution était nécessaire, afin d'assurer l'égalité des deux corps de combattants. Selon la formalité d'usage, le chevalier déshérité devait combattre contre le chef d'un des partis, tandis que Brillant de Bois-Guilbert, qu'on regardait comme s'étant le mieux comporté après lui dans la journée précédente, fut nommé le chef de l'autre troupe. Ceux qui avaient tenu la lice avec lui appartenaient nécessairement à son parti, à l'exception de Ralph de Vipon, que sa chute avait rendu incapable de revêtir son armure de sitôt. Au reste, il ne manquait pas de candidats distingués et nobles pour compléter les rangs de l'un et de l'autre côté. En effet, quoique les joutes générales dans lesquelles tous les chevaliers combattaient à la fois fussent plus dangereuses que les rencontres d'homme à homme, elles étaient néanmoins plus recherchées et plus pratiquées par la chevalerie. Bon nombre de chevaliers, qui se méfiaient trop de leur adresse pour défier un homme d'une haute renommée, étaient néanmoins très disposés pour un combat général, où ils pouvaient trouver des adversaires d'une force plus égale à la leur. Dans l'occasion présente, une cinquantaine de chevaliers étaient inscrits au contrôle, comme désirant combattre, lorsque les maréchaux du camp proclamèrent qu'on ne pouvait pas en admettre davantage, au grand regret de plusieurs qui arrivaient trop tard pour faire valoir leurs prétentions à être compris parmi les combattants. Vers les 10 heures environ, toute la plaine fut couverte de chevaliers, de dames à cheval et de piétons, s'avançant en toute hâte vers le champ clos. Et bientôt après, une éclatante fanfare annonça le prince Jean et sa suite, accompagné d'une foule de ses chevaliers qui allaient prendre part à la joute, ainsi que d'autres qui n'avaient pas cette intention. Vers le même temps environ, arriva Cédric le Saxon avec Lady Rowena, mais sans être toutefois accompagné d'Athelstan. Ce seigneur saxon avait couvert son corps grand et vigoureux de son armure, dans l'intention de prendre place parmi les combattants, et, au grand étonnement de Cédric, s'était décidé à se ranger du côté du chevalier du temple. Cédric, toutefois, avait fait de sévères remontrances à son ami sur le choix inconvenant de sa bannière, mais il n'en avait reçu que cette sorte de réponse qu'ont l'habitude de donner ceux-là qui s'entendent d'autant plus à suivre leurs propres idées qu'ils ne sont moins capables de les justifier. La meilleure raison, sinon l'unique, qu'il avait de s'unir au parti de Brillant de Bois-Guilbert, Athelstan eut la prudence de ne pas la dévoiler. Bien que son apathie l'empêchait d'employer aucun moyen pour se faire valoir auprès de Lady Rowena, il n'était néanmoins aucunement insensible à ses attraits, et il considérait son mariage avec elle comme une chose déjà arrêtée irrévocablement par l'assentiment de Cédric et de ses autres amis. Ce fut donc avec un mécontentement comprimé que l'orgueilleux mais indolent seigneur de Königsbourg vit le vainqueur de la veille fixer son choix sur Rowena, pour faire d'elle l'objet d'un honneur que son privilège lui donnait exclusivement le droit de conférer. Afin de le punir pour une préférence qui semblait contrecarrer ses prétentions, Athelstan, se fiant sur sa force et sur l'adresse que ses flatteurs lui attribuaient dans le maniement des armes, avait résolu non seulement de priver le chevalier déshérité de son puissant secours, mais, si l'occasion s'en présentait, de lui faire sentir le poids de sa hache d'armes. De Bracy et autres chevaliers, partisans du prince Jean, pour obéir à une suggestion de leur maître, s'étaient liées au parti des chevaliers tenants. Car Jean voulait, si cela était possible, assurer la victoire à ce côté. D'une autre part, un grand nombre de chevaliers, anglais et normands, indigènes et étrangers, se rangèrent contre les tenants, d'autant plus volontiers que la troupe qui leur était opposée allait être commandée par un champion aussi distingué que le chevalier déshérité. Dès que le prince Jean eut remarqué que la reine proclamée du jour était arrivée sur le lieu du combat, il prit cet air de courtoisie qui lui allait si bien lorsqu'il daignait en faire usage. Il s'avança au-devant d'elle, ôta son bonnet, et, descendant de cheval, il aida Lady Rowena à quitter sa selle. Toute sa suite se découvrit en même temps, et l'un des seigneurs les plus distingués parmi eux mit pied à terre pour tenir son palefroid. « C'est ainsi, dit le prince Jean, que nous donnons l'exemple de loyale obéissance à la reine de la beauté et des amours, en la guidant nous-mêmes vers le trône qu'elle doit occuper durant cette journée. « Mesdames, ajouta-t-il, si vous désirez un jour être honorées de la même manière, entourez votre reine et obéissez-lui. » En disant ces mots, le prince conduisit en cérémonie Lady Rowena à la place d'honneur, située vis-à-vis de la sienne, tandis que les dames les plus belles et les plus distinguées s'empressaient autour d'elle pour obtenir des places aussi rapprochées que possible de leur souveraine du moment. Rowena ne fut pas plus tôt assise qu'un éclat de musique à moitié étouffé par les cris de la multitude salua sa nouvelle dignité. Pendant ce temps, le soleil se reflétait splendidement sur les armes éblouissantes des chevaliers des deux parties, qui occupaient les deux extrémités de la lice et tenaient ensemble conseil sur la meilleure manière de se ranger en bataille et de soutenir le choc. Les héros réclamaient le silence jusqu'à ce que les lois du tournoi eussent été promulguées. Elles avaient été combinées en quelque sorte pour atténuer le danger de la journée, précaution d'autant plus nécessaire que le combat allait avoir lieu avec des épées tranchantes et des lances à fer non émoulues. Il fut donc défendu au champion de se servir de l'estoc. Il ne devait frapper que de taille. On annonça que les chevaliers pouvaient se servir à leur gré de la masse ou de la hache d'armes, mais que le poignard était prohibé. Un chevalier désarçonné pouvait continuer le combat à pied avec un autre champion du parti opposé qui subissait la même disgrâce. Mais les cavaliers montés ne devaient pas l'attaquer dans cette condition. Si un chevalier pouvait acculer son adversaire à l'extrémité de la lice, de manière à lui faire toucher la palissade de sa personne ou de ses armes, cet ennemi serait tenu de s'avouer vaincu, et son armure, ainsi que son cheval, deviendrait la propriété du vainqueur. Un chevalier vaincu de cette manière ne serait plus autorisé à prendre part au combat. Si un combattant désarçonné était incapable de se remettre sur pied, son écuyer ou son page pourrait entrer dans la lice et retirer son maître de la mêlée, mais dans ce cas, le chevalier serait déclaré vaincu, et son cheval et ses armes seraient confisqués. Le combat devait cesser aussitôt que le prince Jean lancerait son bâton. Autre précaution que l'on prenait habituellement pour empêcher une inutile effusion de sang, la durée trop prolongée d'un jeu si meurtrier. Tout chevalier violant les règles du tournoi ou enfreignant d'une manière quelconque les règles d'honneur de la chevalerie s'exposait à être dépouillé de ses armes, à voir son écusson renversé, placé sur les pieux de la palissade et exposé à la dérision du peuple pour punir sa conduite anti-chevaleresque. Ce programme proclamé, les héros conclurent en exhortant chaque bon chevalier à faire son devoir et à mériter la faveur de la reine de la beauté et des amours. Cette proclamation terminée, les héros se retirèrent à leur poste. Les chevaliers entrèrent dans la lice par l'une et l'autre extrémité, en long défilé, et se rangèrent sur une double ligne, tout à fait en face les uns des autres, le chef de chaque troupe se tenant au centre du premier rang, poste qui resta inoccupé jusqu'au moment où chaque chef eut placé avec soin chaque combattant à son rang respectif. C'était un spectacle splendide et terrible en même temps, que de voir un si grand nombre de vaillants adversaires, bravement montés et richement armés, se tenir prêts à une rencontre si formidable, assis sur leurs selles de guerre comme autant de statues de fer, et attendant le signal du combat avec la même ardeur que leurs généreux coursiers, qui signalaient leur impatience par les hennissements et en frappant la terre du pied. Jusque-là, les chevaliers avaient tenu leurs lances verticalement placées, leurs pointes brillantes scintillaient au soleil, et les banderoles dont elles étaient décorées flottaient au-dessus des panaches des casques. Ils restèrent ainsi pendant que les maréchaux du camp inspectaient leurs rangs avec la plus grande minutie, de crainte que l'un ou l'autre parti ne comptât plus ou moins de chevaliers que le nombre fixé. Le compte fut trouvé exact. Alors les maréchaux sortirent de la lice et Guillaume de Wiville donna le signal en prononçant d'une voix de tonnerre ces mots « Laissez aller !» Les trompettes retentirent à ces paroles. Aussitôt, les champions baissèrent leurs lances et les mirent en arrêt. Ils enfoncèrent les éperons dans les flancs de leurs chevaux et les deux rangs les plus avancés de chaque partie s'élancèrent au grand galop l'un contre l'autre et se heurtèrent au milieu de la lice dans un choc dont le bruit fut entendu à 1 mille de là. Le deuxième rang de chaque partie s'avança d'un pas plus lent pour contenir les vaincus ou raffermir le succès des vainqueurs. Les conséquences du choc ne furent pas visibles sur le champ, car la poussière soulevée par le piétinement de tant de chevaux obscurcit l'air, et il fallut quelque temps avant que les spectateurs, inquiets, pussent apprécier l'issue de cette rencontre. Quand le combat devint visible, la moitié des chevaliers de chaque côté étaient démontés, les uns par l'adresse de la lance de leur adversaire, les autres par le poids et la force supérieure de leurs ennemis, ayant abattu chevaux et hommes. Les uns gisaient sur le sol, comme s'ils ne devaient plus se relever, d'autres étaient déjà remis sur pied et combattaient corps à corps ceux de leurs adversaires qui se trouvaient dans la même condition. Enfin, des deux côtés, plusieurs combattants ayant reçu des blessures qui les mettaient hors de combat, étanchaient leur sang avec leurs écharpes et tâchaient de se retirer de la mêlée. Les chevaliers montés, dont les lances avaient été presque toutes brisées par la violence du choc, étaient maintenant étroitement engagés avec leurs épées, poussant leurs cris de guerre et échangeant des coups aussi pressés que si l'honneur et la vie dépendaient de l'issue du combat. Le tumulte fut bientôt augmenté par l'arrivée des chevaliers composant le second rang des deux parties, qui, agissant comme réserve, s'élançaient maintenant au secours de leurs compagnons. Ceux qui tenaient pour Brillant de Bois-Guilbert criaient « Beauséant, Beauséant, pour le temple, pour le temple !» Le parti opposé répondait à ce cri par celui de « Desdicado, Desdicado !» mot de ralliement qu'ils empruntaient à la devise de l'écu de leur chef. Les champions se rencontrant ainsi avec la plus grande furie et avec un succès balancé, la fortune du combat semblait inclinée tantôt vers le midi, tantôt vers le nord de la lice, selon que l'un ou l'autre parti dominait. Pendant ce temps, le retentissement des coups et les cris des combattants se mêlaient effroyablement au son des trompettes et absorbaient les gémissements de ceux qui tombaient et qui roulaient sans défense sous les pieds des chevaux. Les splendides armures des combattants, maintenant souillées par le sang et par la poussière, cédaient à chaque coup de l'épée et de la hache d'armes. Les joyeux panaches, arrachés des casques, étaient soulevés par la brise comme des flocons de neige. Tout ce qu'il y avait de beau et de gracieux dans l'équipement militaire avait disparu, et ce qu'on voyait maintenant ne pouvait qu'inspirer la terreur ou la compassion. Cependant, telle est la force de l'habitude, que non seulement les spectateurs vulgaires, qui sont naturellement stimulés par des scènes de sang, mais même les dames de distinction qui encombraient les galeries virent le combat avec un intérêt d'angoisse. Il est vrai, mais sans désirer de détourner les regards d'une si terrible vue. Ça et là, à la vérité, une belle joue pouvait pâlir ou un faible cri se faire entendre lorsqu'un amant, un frère ou un mari tombait de cheval. Mais en général, les dames assises autour de la lice encourageaient les combattants, non seulement en battant des mains et en agitant les voiles et les mouchoirs, mais même en s'écriant « Brave lance, bonne épée !» chaque fois qu'un coup heureux frappait leur regard. Tel était l'intérêt que portait le beau sexe à ce jeu sanglant. Celui que les hommes éprouvaient est plus facile à comprendre. Cet intérêt se manifestait par de vives acclamations à chaque tour de fortune, pendant que tous les yeux paraissaient rivés sur la lice, que les spectateurs semblaient eux-mêmes avoir porté ou reçu les coups qui étaient si largement distribués. Puis, à chaque pause, on entendait la voix des héros clamant « Combattez, braves chevaliers ! L'homme meurt, mais la gloire survit ! Combattez toujours ! La mort vaut mieux que la défaite ! Combattez toujours, car de beaux yeux contemplent vos actions !» Au milieu des alternatives de succès et de revers, tous les yeux cherchaient à découvrir les chefs de chaque troupe, qui, mêlés au fort de la bataille, encourageaient leurs compagnons de la voix et de l'exemple. Tous deux firent preuve de grande bravoure. Mais ni Bois Guilbert ni le chevalier déshérité ne trouvèrent dans les rangs de leurs ennemis un champion qui pût se mesurer avec eux à force égale. Ils se cherchèrent plus d'une fois, stimulés par une animosité mutuelle, sachant bien que la chute de l'un ou de l'autre déterminerait la victoire. Telle cependant était la foule et la confusion que, pendant la première partie du combat, les efforts qu'ils firent pour se rencontrer étaient inutiles, et ils furent maintes fois séparés par l'ardeur de leurs partisans, dont chacun voulait se distinguer en se mesurant avec le chef du parti opposé. Mais, lorsque la mêlée s'éclaircit par le nombre de ceux qui, des deux côtés, s'étant avoués vaincus, avaient été repoussés aux extrémités de la lice, ou bien étaient déclarés hors d'état de continuer la lutte, le templier et le chevalier déshérité se rencontrèrent à la fin, face à face, animés de toute la fureur qu'une aversion mortelle et une rivalité de gloire peuvent inspirer à deux adversaires. Telle était l'adresse de chacun d'eux à parer et à porter des coups que les spectateurs éclatèrent en un cri involontaire et unanime pour exprimer leur admiration et leur plaisir. Mais, en ce moment, le parti du chevalier déshérité succombait. Le bras gigantesque de Front de Bœuf sur un des flancs de la bataille et la vigueur massive d'Athelstan de l'autre renversaient et dispersaient tous ceux qui se trouvaient à portée de leurs coups. Débarrassés de leurs adversaires immédiats, il paraîtrait que la même pensée se présenta en même temps à ces deux guerriers, que ce serait rendre un service décisif à leur parti en aidant le Templier à combattre son rival. Au même moment, alors, détournant chacun son cheval, le Normand se précipita contre le chevalier d'un côté et le Saxon de l'autre. Il eût été complètement impossible que le chevalier déshérité soutînt cet assaut aussi inégal et inattendu, s'il n'eût été averti par un cri général des spectateurs qui ne purent s'empêcher de s'intéresser à un guerrier exposé à un si grand désavantage. « Gare à vous ! Gare à vous, chevalier déshérité » cria-t-on si universellement que le chevalier s'aperçut du danger qu'il courait. Et, portant un coup terrible en pleine figure au templier, il fit reculer aussitôt son coursier, et par ce mouvement évita la charge simultanée d'Athelstan et de Front de Bœuf. Or, ces chevaliers, trompés dans leur but et partis de deux côtés opposés, s'élancèrent entre le but de leur attaque et le templier, leurs chevaux se touchant presque avant qu'ils pussent arrêter leur course. Maîtrisant leurs chevaux toutefois et faisant demi-volte, ils se réunirent tous trois dans leurs efforts pour abattre le chevalier déshérité. Rien ne pouvait le sauver que la force et la légèreté remarquables du noble cheval qu'il avait gagné la veille. Cette qualité lui fut d'autant plus utile que le cheval de Bois Guilbert était blessé, et ceux de Front de Bœuf et d'Athelstan, tous deux fatigués par le poids de leur maître gigantesque, vêtus d'armure complète et par les efforts qu'ils avaient déjà faits. L'admirable adresse du chevalier déshérité et l'ardeur du noble animal qu'il montait le mirent à même, pendant quelques minutes, de tenir à distance de l'épée ses trois adversaires. Se tournant d'un côté à l'autre avec l'agilité d'un faucon, tenant ses ennemis autant séparés que possible, il se précipitait tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, portant avec son épée des coups largement assénés, sans attendre ce qu'on cherchait à lui rendre. Mais, bien que la lice retentît des applaudissements excités par son adresse, il était manifeste qu'il serait à la fin accablé, et les seigneurs autour du prince Jean le suppliaient d'une voix unanime de lancer son bâton dans la lice et d'épargner à un chevalier si brave d'être vaincu par une force si supérieure.
« Je n'en ferai rien, par la lumière du ciel !» répondit le prince Jean.
« Ce même Jouvenceau qui cache son nom et méprise l'hospitalité que nous lui avons offerte a déjà gagné un prix. Il peut donc bien permettre aux autres d'avoir leur tour. »
Il parlait ainsi quand un incident inattendu changea le sort de la journée. Il y avait dans les rangs du chevalier déshérité un guerrier en armure noire, monté sur un cheval noir d'une haute taille et présentant toutes les apparences de force et de puissance, ainsi que le chevalier qui le montait. Ce guerrier, qui ne portait sur son bouclier aucune devise, n'avait montré jusqu'ici qu'un médiocre intérêt pour l'issue du combat, repoussant avec une facilité apparente tous ceux qui l'assaillaient, mais sans poursuivre les avantages et sans attaquer à son tour qui que ce fût. Bref, il avait jusque-là joué le rôle plutôt d'un spectateur que d'un acteur dans le tournoi, et cette circonstance lui avait procuré, de la part des assistants, le surnom de « Noir Fainéant ». Tout à coup, ce chevalier parut secouer son apathie en voyant le chef de son parti si rudement serré. Car, piquant son cheval encore tout frais, il vola à son secours aussi prompt que la foudre, et criant d'une voix perçante comme le son de la trompette « Desdicado, à la rescousse !» Il était temps, car pendant que le chevalier déshérité serrait de près le templier, Front de Bœuf s'était approché de lui l'épée haute. Mais, avant qu'elle fût descendue, le chevalier noir lui porta sur la tête un coup qui, glissant sur le casque poli, retomba avec une force à peine atténuée sur le chanfrein du coursier. Et Front de Bœuf roula à terre, ainsi que son cheval, tous deux également étourdis par la violence du coup. Puis, le noir fainéant se retourna vers Athelstan de Koningsbourg, et sa propre épée ayant été brisée dans sa courte rencontre avec Front de Bœuf, il arracha de la main du géant saxon la hache d'armes que portait celui-ci, et, en homme familier avec l'emploi de cette hache, il lui en asséna un coup si vigoureux qu'Athelstan aussi tomba sans connaissance sur le sol. Ayant accompli ce double fait d'armes, qui fut d'autant plus applaudi qu'on s'y attendait moins, le chevalier parut reprendre sa première nonchalance et revint tranquillement à l'extrémité nord de la lice, laissant son chef se mesurer de son mieux avec Brillant de Bois Guilbert. Cela n'était plus aussi difficile qu'auparavant. Le cheval du templier ayant perdu beaucoup de sang, il succomba sous le choc du chevalier déshérité. Brillant de Bois Guilbert roula sur l'arène, embarrassé dans ses étriers, d'où il ne pouvait retirer le pied. Son adversaire s'élança de son cheval, et levant sa terrible épée au-dessus de la tête du templier, il lui ordonnait de se rendre. Lorsque le prince Jean, plus sensible à la situation périlleuse de Bois Guilbert qu'il ne l'avait été de son rival, lui sauva la honte de s'avouer vaincu en jetant son bâton de commandement dans l'arène et en mettant ainsi fin au combat. Ce n'était plus, à la vérité, que les faibles restes de la mêlée qui s'agitait encore, car du petit nombre de chevaliers qui étaient demeurés dans la lice, la plus grande partie avait, par un assentiment tacite, assisté oisive à la lutte des chefs, laissant à son issue le soin de terminer la joute. Les écuyers, qui avaient trouvé difficile et périlleux de suivre leur maître pendant la bataille, entrèrent alors en foule dans la lice pour faire leur service auprès des blessés, qui furent emportés avec le plus de soin et d'attention possible dans les pavillons voisins ou bien dans les quartiers préparés pour eux dans le village voisin. Ainsi se termina la mémorable passe d'armes d'Asby de la Zouche, un des tournois les plus vaillamment disputés de ce siècle. Car bien qu'il n'y eût de tués que 4 chevaliers, dont l'un avait été étouffé par le poids de son armure, cependant plus de 30 furent grièvement blessés, et de ce nombre, 4 ou 5 ne se rétablirent jamais. Plusieurs autres restèrent estropiés toute leur vie, et ceux qui furent les plus heureux portèrent jusqu'au tombeau les cicatrices de ce combat. C'est pourquoi les anciennes chroniques le nomment toujours la gentille et joyeuse passe d'armes d'Asby. Comme il était du devoir du prince Jean de nommer le chevalier qui s'était le mieux comporté, il décida que l'honneur de la journée appartenait au chevalier que la foule avait désigné sous le nom de Noir Fainéant. On fit observer au prince, pour le ramener sur sa décision, que la victoire avait été effectivement gagnée par le chevalier déshérité, qui, dans le courant de la journée, avait vaincu 6 champions de sa propre main, et qui enfin avait abattu le chef du parti opposé. Mais le prince Jean persista dans son premier avis, s'appuyant sur le fait que le chevalier déshérité aurait perdu la bataille sans le puissant secours du chevalier noir, à qui, par conséquent, il s'obstinait à adjuger le prix. Cependant, à la grande surprise de tous ceux qui étaient présents, on ne put retrouver nulle part le chevalier ainsi préféré. Il avait quitté la lice immédiatement après le combat, et plusieurs des spectateurs l'avaient observé parcourant une des clairières de la forêt, de ce même pas lent et de cette manière nonchalante qui lui avait valu l'épithète de « Noir Fainéant ». Après l'avoir appelé 2 fois à son de trompette et au cri des héros, on fut obligé d'en nommer un autre pour recevoir les honneurs qui lui avaient été décernés. Maintenant, le prince Jean n'avait plus d'excuses pour ne pas admettre les droits du chevalier déshérité, qu'il nomma, par conséquent, le héros de la journée. Ce fut à travers un terrain rendu glissant par le sang et encombré d'armures brisées, ainsi que des corps des chevaux tués et blessés, que les maréchaux du camp conduisirent une seconde fois le vainqueur au pied du trône du prince Jean. « Chevalier déshérité, dit le prince Jean, puisque c'est sous ce titre seul que vous consentez à être connu de nous, nous vous décernons une seconde fois les honneurs de ce tournoi, et nous vous annonçons le droit que vous avez de réclamer et de recevoir, des mains de la reine de la beauté et des amours, le chapelet d'honneur que votre valeur a si justement mérité. » Le chevalier salua profondément et avec grâce, mais il ne fit aucune réponse. Tandis que les trompettes résonnaient, que les héros, forçant la voix, criaient « Honneur aux braves, gloire aux vainqueurs !» Tandis que les dames agitaient leurs mouchoirs brodés et que les spectateurs de tous les rangs s'unissaient dans un cri bruyant d'admiration, les maréchaux conduisirent le chevalier déshérité à travers la lice jusqu'au pied du trône d'honneur occupé par Lady Rowena. On fit agenouiller le vainqueur sur le dernier degré de ce trône. À la vérité, toute sa conduite depuis la fin du combat paraissait avoir été plutôt le résultat de l'impulsion de ceux qui l'entouraient que de sa propre volonté. Et on remarqua qu'il chancelait en traversant la lice une seconde fois. Rowena, descendant de sa place d'un pas digne et gracieux, allait placer le chapelet qu'elle tenait dans sa main sur le casque du champion, lorsque les maréchaux s'écrièrent d'une seule voix « Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir! Sa tête doit être nue !» le chevalier balbutia faiblement quelques paroles qui se perdirent sous son casque, mais elles semblaient indiquer le désir qu'il avait qu'on ne le lui ôtât pas. Soit amour de l'étiquette, soit curiosité, les maréchaux ne firent aucune attention à ces signes de répugnance. Ils lui ôtèrent son casque, en coupant les lacets et en dégrafant le gorgerin. Lorsque le casque fut enlevé, on vit apparaître les traits réguliers, mais brûlés par le soleil, d'un jeune homme de 25 ans, avec une profusion de cheveux blonds et courts. Son visage était aussi pâle que la mort et taché de sang en 2 ou 3 endroits. Rowena ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'elle jeta un faible cri. Mais, rappelant à son aide toute l'énergie de son caractère et s'efforçant pour ainsi dire d'achever son rôle, tandis que tout son corps tremblait sous la violence de l'émotion, elle plaça sur la tête affaissée du vainqueur le splendide chapelet qui était la récompense de la journée et prononça d'une voix claire et distincte ces mots. « Je t'accorde ce chapelet, messire chevalier, comme la récompense de la valeur décernée au vainqueur de cette journée. » Elle s'arrêta un moment, puis elle ajouta avec fermeté. « Et jamais sur un front plus digne on a placé un laurier de chevalerie. » Le chevalier baissa la tête et baisa la main de la belle souveraine par qui sa valeur avait été récompensée. Puis, s'affaissant de plus en plus sur lui-même, il tomba, évanoui, à ses pieds. Il y eut une consternation générale. Cédric, qui avait été frappé de stupeur par l'apparition soudaine de son fils, banni, s'élança comme pour le séparer de Rowena. Mais déjà la chose avait été accomplie par les maréchaux du camp, qui, devinant la cause de l'évanouissement d'Ivanhoé, s'était hâté de lui ôter son armure et avait trouvé que le fer d'une lance, après avoir traversé son bouclier, lui avait fait une blessure au côté. Chapitre 13. Le nom d'Ivanhoé ne fut pas plus tôt prononcé qu'il vola de bouche en bouche avec toute la célérité qu'il put recevoir de l'ardeur et de la curiosité. Il ne tarda pas à parvenir au cercle du prince, dont le front s'obscurcit en apprenant cette nouvelle. Mais, regardant autour de lui avec dépit, « Mes seigneurs, dit-il, et vous surtout, messire prieur, que pensez-vous de la doctrine des savants concernant les attractions et les antipathies innées ? Il m'a semblé sentir la présence du favori de mon frère lorsque je me méfiais de l'homme que recouvrait cette armure. » « Il faut que Front de Bœuf se prépare à restituer son fief d'Ivanhoé, » dit de Bracy, qui, s'étant comporté honorablement pendant ce tournoi, avait déposé son écu et son aume pour reprendre sa place à la suite du prince. « Oui, » répondit Valdemar Fitzurse, « ce beau cavalier est capable de réclamer le château et le domaine que Richard lui a assigné, et que la générosité de votre Altesse a depuis donné à Front de Bœuf. « Front de Bœuf, répliqua Jean, est plutôt homme à avaler 3 manoirs comme celui d'Ivanhoé que d'en dégorger un seul. Du reste, messieurs, j'espère que personne ici présent ne me disputera mon droit de conférer les fiefs de la couronne aux fidèles serviteurs qui m'entourent et qui sont prêts à faire le service militaire d'usage, à la place de ceux qui vont errant dans les pays étrangers et qui ne peuvent rendre ni hommage ni service quand ils en sont requis. » L'auditoire était trop intéressé dans cette question pour ne pas déclarer que le droit que le prince s'arrogeait était tout à fait incontestable. « Prince généreux ! » s'écrièrent-ils. « Très noble seigneur, qui s'impose ainsi la tâche de récompenser ses fidèles serviteurs. » Telles furent les paroles que l'escorte proféra, car tous attendaient pareille gratification aux dépens des serviteurs et des favoris du roi Richard, si toutefois ils ne les avaient pas déjà reçus. Le prieur Aymer appuya aussi l'opinion générale, en faisant observer cependant que Jérusalem la Sainte
ne pouvait, à la vérité, être citée comme un pays étranger. Elle était « communis mater », la mère commune de tous les chrétiens. Mais il ne voyait pas, déclarait-il, comment le chevalier d'Ivanhoé pouvait tirer parti de cet argument, puisque lui, le prieur, était assuré que les croisés, sous Richard, ne s'étaient jamais avancés plus loin qu'Ascalon, qui, comme tout le monde le savait, était une ville de Philistins et ne pouvait jouir d'aucun des privilèges de la ville sainte. Waldemar, que la curiosité avait conduit vers l'endroit où Ivanhoé était tombé, revint en ce moment. « Ce preux, dit-il, ne donnera probablement à votre Altesse que peu d'inquiétude, et je crois qu'il laissera Front de Bœuf dans la tranquille possession de ses biens, car il est grièvement blessé. » « Quoi qu'il lui arrive, dit le prince Jean, il est le héros de la journée, et fût-il 10 fois notre ennemi ou l'ami dévoué de notre frère, ce qui est peut-être la même chose, il faut songer à ses blessures. Notre médecin lui-même lui donnera des soins. » Un sourire malveillant erra sur les lèvres du prince en disant ces mots. Waldemar Fitzurse se hâta de répondre qu'Ivanhoé avait déjà été emporté hors de la lice et se trouvait sous la garde de ses amis. « J'ai été quelque peu affligé, dit-il, de la douleur qu'a laissé percer la reine des amours et de la beauté, dont la souveraineté d'un jour s'est changée en deuil par cet événement. Je ne suis pas homme à me laisser attendrir par les lamentations d'une femme sur son amant, mais cette même Lady Rowena a comprimé son chagrin avec tant de dignité qu'on n'a pu le découvrir qu'à ses mains crispées et à ses yeux sans larmes, qui fixaient le corps inanimé étendu devant elle. « Qui est cette Lady Rowena dont on nous a tant parlé ?» demanda le prince Jean. « Une Saxonne, et l'héritière de grands biens, répondit le prieur Aymer. Une rose de grâce et un bijou d'opulence, la plus belle entre mille, un bouquet de myrrhe et une essence de benjoin. Nous trouverons bien le moyen d'égayer sa tristesse, dit le prince Jean, et d'améliorer sa race en la mariant à un seigneur normand. Elle me paraît mineure. Or, elle doit être à notre disposition pour le mariage. Qu'en dis-tu, de Bracy? Veux-tu acquérir terres et bénéfices en épousant une Saxonne, selon la manière des preux du conquérant?
Pourvu que les terres me conviennent, répondit de Bracy. Il y a peu de danger que la fiancée me déplaise, et je me tiendrai profondément obligé à votre Altesse pour un bienfait qui remplira toutes les promesses qu'elle a faites à son serviteur et vassal.
Nous ne l'oublierons pas, répondit le prince Jean, et pour nous en assurer sans délai, qu'on ordonne à notre sénéchal de commander un instant à Lady Rowena et à sa société de paraître devant nous au banquet de ce soir. C'est-à-dire ce grossier Manant, son tuteur, et le bœuf saxon que le chevalier noir a bâti dans le tournoi.
De Bigot, ajouta-t-il en s'adressant au sénéchal, tu transmettras la seconde partie de notre invitation, assez courtoisement pour flatter ces orgueilleux saxons et rendre leur refus impossible, quoi que ce soit, je le jure par les os de Becket. Jeter des perles aux pourceaux.
Le prince Jean achevait ces mots et allait donner le signal de quitter la lice lorsqu'un petit billet lui fut remis.
« De qui ?»
demanda le prince Jean en regardant la personne qui venait de le lui donner.
« Des pays étrangers, monseigneur, mais j'ignore de quelle part, » répondit le serviteur.
« Un Français l'a apporté ici en disant qu'il avait chevauché nuit et jour pour le remettre aux mains de votre Altesse. »
Le prince examina attentivement la suscription, puis le sceau, qui était placé de manière à assurer le cordonnet de soie qui l'entourait et qui portait l'empreinte de 3 fleurs de lys. Ensuite, Jean ouvrit le billet avec une agitation apparente qui s'augmenta visiblement après qu'il en eut pris la lecture. Le billet contenait ces mots. «
Prends garde à toi,
car le diable a rompu ses chaînes. Le prince devint pâle comme un trépassé. Il regarda la terre, puis le ciel, comme un homme qui apprend que la peine de mort vient d'être prononcée contre lui. Mais, revenant du premier effet de sa surprise, il prit à l'écart Waldemar Fitzurs et De Bracy et leur montra tour à tour le billet.
« Ceci peut être une fausse alarme ou une fausse lettre, » dit De Bracy.
« C'est la main et le sceau de mon frère de France, » reprit le prince Jean.
« En ce cas, il est temps, » dit Fitzurs, « de concentrer nos forces, soit à York, soit dans quelque place du centre. Encore quelques jours et il sera trop tard. Votre Altesse ferait bien de couper court aux momeries d'Ashby. »
« Les Yeomen et le peuple, » dit De Bracy, « seraient mécontents si on les congédiait sans leur avoir fait leur part dans ces jeux. »«
Le jour, » dit Waldemar, « n'est pas encore très avancé. Que les archers tirent chacun quelques traits à la cible et que le prix soit adjugé. De cette manière, le prince sera amplement libéré de sa promesse envers ce troupeau de cerfs saxons. »
« Je te remercie, Waldemar, » dit le prince. « Tu me rappelles aussi que j'ai un compte à régler avec cet insolent paysan qui, hier, a insulté notre personne. Notre banquet sera toujours maintenu pour cette nuit, ainsi que nous en étions convenus. Lors même que ce serait la dernière heure de ma puissance, cette heure serait consacrée à la vengeance et au plaisir. Que les soucis de demain ne troublent pas les joies de ce jour. »
Le son des trompettes eut bientôt rappelé les spectateurs, qui commençaient déjà à quitter le lieu du tournoi, et les héros proclamèrent que le prince Jean, subitement appelé à des devoirs importants et péremptoires, se voyait obligé de renoncer au divertissement de la fête du lendemain. Mais néanmoins, ne voulant pas laisser partir tant de yeomen sans avoir mis leur adresse à l'épreuve, il avait bien voulu ordonner qu'avant de quitter ces lieux, ils misent à exécution sur le champ ce concours pour le tir qui devait n'avoir lieu que le lendemain. Au meilleur tireur, on accordait pour prix un corps de chasse monté en argent, un baudrier de soie richement décoré et un médaillon de Saint-Hubert, patron des forêts. Plus de 30 yeomen se présentèrent d'abord pour concourir, dont plusieurs étaient les gardes et les sous-gardes des forêts royales de Needwood et de Charnwood. Toutefois, quand les archers apprirent avec qui ils avaient à se mesurer, plus de 20 d'entre eux se retirèrent de la lutte, ne voulant pas encourir le déshonneur d'une défaite presque certaine. Car, dans ces jours, l'habileté de chaque tireur célèbre était aussi bien connue à plusieurs milles à la ronde que le sont les qualités d'un cheval dressé aujourd'hui à Newmarket des amateurs qui fréquentent ce fameux rendez-vous. Malgré la retraite de tant de compétiteurs, il restait encore 8 concurrents pour le tir. Le prince Jean quitta son trône pour examiner de plus près ses yeomen d'élite, dont plusieurs portaient la livrée royale. Ayant satisfait sa curiosité par cette inspection, il chercha l'objet de son ressentiment, qu'il vit se tenant au même endroit, ayant le même aspect calme qu'il avait la veille.
« Drôle !» dit le prince Jean. « J'ai deviné par ton insolent bavardage que tu n'étais pas un véritable ami de l'arc, et je crois que tu n'oses pas risquer ton adresse avec les hommes que l'on voit là-bas. »
« Sauf votre respect, monseigneur, » répliqua le yeoman.
« J'ai encore une autre raison pour m'abstenir de tirer, outre la crainte de l'insuccès et de la disgrâce. »«
Et quelle est ton autre raison ?» demanda le prince Jean, qui, pour une cause que lui-même aurait eu de la peine à expliquer, éprouvait une curiosité inquiète au sujet de cet individu.
« Parce que, » répliqua le forestier, « j'ignore si ces yeomen et moi, nous avons l'habitude de viser le même but, et si, en outre, votre grâce serait satisfaite que le troisième prix fût gagné par un homme qui, involontairement, a encouru son déplaisir. »
Le prince Jean rougit en faisant la question suivante.
« Quel est ton nom, yeoman ?
Locksley,
répondit le yeoman.
Eh bien, Locksley, dit le prince Jean, tu tireras à ton tour quand ces yeomen auront déployé leur adresse. Si tu emportes le prix, j'y ajouterai 20 nobles. Mais si tu perds, tu seras dépouillé de ton habit de drap vert de Lincoln et chassé de la lice à coups de corde d'arc, comme fanfaron, babillard et insolent.
Et si je refuse de tirer à ces conditions? Demanda le yeoman.
Le pouvoir de votre grâce, soutenu comme il l'est par tant d'hommes d'armes, peut certainement me dépouiller et me battre sans peine, mais il ne peut me forcer de bander mon arc et de tirer une flèche.
Si tu refuses notre offre équitable, dit le prince, le prévôt de la lice coupera la corde de ton arc, brisera ton arc et tes flèches, et te chassera de notre présence comme un lâche dont le cœur a failli.
Ce n'est plus une chance égale que vous m'imposez, prince, dit le yeoman, en m'obligeant ainsi à lutter contre les meilleurs archers de Leicester et de Stafford, sous peine d'infamie s'ils sont mes maîtres. Néanmoins, je ferai selon votre plaisir.
Veillez sur lui, homme d'armes, dit le prince Jean.
Son cœur faiblit, je crains qu'il ne veuille se soustraire à l'épreuve.
Et quant à vous, mes braves, tirez bien et hardiment. Un daim et un muid de devin vous attendront sous la tente, là-bas, quand les jeux seront terminés.
Une cible fut placée à l'extrémité de l'avenue méridionale conduisant à la lice. Les archers inscrits se portèrent à la file au fond de l'ouverture du midi, la distance entre ce poste et le but laissant un intervalle assez grand pour ce qu'on appelait un tir au hasard. Les archers, ayant au préalable décidé par la voie du sort l'ordre pour le tir, devaient lancer chacun successivement 3 flèches. Les exercices furent surveillés par un officier subalterne nommé par le prévôt du tir. Car on aurait craint d'avilir le haut rang des maréchaux de la lice en les requérant de diriger les exercices de la yeomanerie. Les archers, s'avançant un à un, lancèrent leurs flèches en braves et habiles yeomen. Sur 24 flèches tirées successivement, 10 se fixèrent dans le but, et les autres s'en approchèrent de si près que, considération faite de la distance du but, on regarda les coups comme bien visés. Sur les 10 traits qui atteignirent le but, 2, plantés dans le cercle intérieur, furent tirés par Hubert, forestier au service de Malvoisin, qui fut par conséquent proclamé vainqueur.
« Maintenant, Locksley, dit le prince Jean au hardi yeoman avec un sourire ironique, veux-tu lutter d'adresse avec Hubert ? Ou bien veux-tu céder ton arc, ton baudrier et ton carquois au prévôt des jeux ?»«
Puisqu'il le faut, dit Locksley, je suis content d'en courir la chance, sous la condition que lorsque j'aurai lancé 2 flèches contre le but d'Hubert, qui est là-bas, il sera tenu, lui, d'en tirer une sur un but que je lui proposerai. »
« Ce n'est que justice, répondit le prince Jean. Et l'on ne te refusera pas cela. Si tu bats ce vantard, ami Hubert, je remplirai ton corps de pennies d'argent. »
Un homme ne peut faire que de son mieux, répliqua Hubert. Mais mon grand-père a bandé un arc d'une bonne grandeur à Hastings, et j'espère ne pas faire déshonneur à sa mémoire.
On enleva la première cible, et on la remplaça par une autre de même grandeur. Hubert, qui, comme vainqueur dans la première épreuve d'adresse, avait le droit de tirer le premier, visa avec grande attention, mesurant longtemps la distance de l'œil, tenant à la main son arc bandé avec la flèche fixée sur la corde. Enfin, faisant un pas en avant et élevant l'arc de toute la longueur de son bras gauche jusqu'à ce que le centre où la flèche touche la corde se trouvât au niveau de sa figure, il tendit la corde jusqu'à son oreille. La flèche siffla en fendant l'air et alla se fixer dans le cercle intérieur de la cible, mais non pas exactement au centre.
« Vous n'avez pas fait la part du vent, Hubert !» lui dit son adversaire en bandant son arc. « Sans quoi, ce coup-là eût été meilleur !» En disant ces mots et sans montrer la moindre inquiétude sur le résultat, Locksley se plaça au poste et lança sa flèche aussi nonchalamment en apparence que s'il n'avait pas même regardé le but. Il parlait encore presque au moment où sa flèche partit, et cependant elle se fixa dans le but, à 2 pouces plus près du point central que celle d'Hubert.
« Par la lumière du ciel !» cria le prince Jean à Hubert. « Si tu permets à ce renégat de te vaincre, tu es digne de la potence !»
Hubert n'avait que la même phrase formulée pour toutes les occasions.
« Si votre Altesse veut me pendre, dit-il, elle en a le pouvoir, mais un homme ne peut faire que de son mieux. Cependant, mon grand-père a bandé un bon arc.
« Que le diable emporte ton grand-père et toute sa génération !»
interrompit Jean.
« Tire, mauvais drôle, et fais de ton mieux, ou cela te coûtera cher !»
Ainsi exhorté, Hubert reprit sa place, et cette fois, faisant son profit de l'avertissement qu'il avait reçu de son adversaire, il fit la part d'une petite brise qui venait de s'élever, et visa avec tant de bonheur que sa flèche pénétra dans le centre même de la cible.
« Hubert ! Hubert !»
s'écria la populace, qui portait plus d'intérêt à un personnage connu qu'à un étranger.
« Dans le bouton ! Dans le bouton ! Vive Hubert !»«
Tu ne peux pas dépasser ce coup-là, Locksley !»
dit le prince avec un sourire insultant.
« Je vais greffer sa flèche. »
Et, ayant pris un peu plus de précaution que la première fois, il lâcha la corde. Et sa flèche alla fendre celle de son rival et la fit voler en éclats. La multitude fut si ébahie de cette merveilleuse adresse qu'elle ne put pas même donner issue à son étonnement par ses acclamations habituelles.
« Il faut que ce soit le diable, et non pas un homme de chair et d'os !»
murmurèrent entre eux les yeomans.
« Car jamais on a vu une pareille force sur l'arc depuis que le premier fut bandé en Angleterre !»
« Et maintenant, dit Locksley, je demanderai à votre grâce la permission de fixer moi-même un but tel qu'on en emploie dans le Nord, et que chaque brave yeoman qui osera en faire l'essai soit récompensé par un sourire de celle qu'il aime le mieux. »
Comme il s'apprêtait à quitter la lice,
« Que vos gardes m'accompagnent, dit-il, si vous le désirez, je vais seulement couper une baguette dans le premier buisson de saule. »
Le prince Jean fit un signal pour que quelques-uns de ses serviteurs le suivissent afin de l'empêcher de s'esquiver. Mais le cri de « Fi donc ! Fi donc !» qui jaillit de la multitude lui fit changer son intention peu généreuse. Locksley revint presque aussitôt avec une baguette de saule d'environ 6 pieds de longueur, parfaitement droite et aussi épaisse que le pouce d'un homme. Il commença par la peler avec un grand sang-froid, en faisant observer en même temps que, engager un bon forestier à tirer sur une cible aussi grande que celle qu'on avait employée jusqu'ici, c'était avilir son adresse.
« Quant à moi, dit-il, dans mon pays, les hommes prendraient tout aussi bien pour but la table ronde du roi Arthur, autour de laquelle 60 chevaliers étaient assis. » Et un enfant de 7 ans pourrait atteindre cette cible là-bas avec un trait sans pointe.
Mais, ajouta-t-il en allant à pas lents à l'extrémité de la lice, et en y fixant la baguette toute droite en terre, celui qui touche cette baguette à une distance de 300 pieds, je le proclame un archer digne de porter le carquois devant un roi. Ce roi fut-il le brave roi Richard.
« Mon grand-père, dit Hubert, a tiré à la bataille d'Hastings une certaine flèche, mais jamais de la vie il n'a visé un but comme celui-ci, et je ne ferai pas non plus. Si ce yeoman peut fendre cette baguette, je lui donne ce baudrier, ou plutôt je cède au diable qui est dans sa veste, mais non pas à une adresse humaine. Un homme ne peut faire que de son mieux, et je ne veux pas tirer quand je suis sûr de ne pas toucher le but. »
autant tirer sur le tranchant d'un canif, sur un fétu de paille ou sur un rayon de soleil, que sur cette petite branche que je puis à peine voir.
« Poltron que tu es !» dit le prince Jean. « Tire donc, Locksley, mais si tu frappes ce but, je dirai que tu es le premier qui l'ait jamais fait. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas que tu brilles à nos dépens par une vaine parade d'adresse. »
« Je ferai de mon mieux, comme dit Hubert, répondit Locksley. C'est tout ce qu'un homme peut faire. »
En disant cela, il banda de nouveau son arc, mais cette fois, il examina son arme scrupuleusement, prit une nouvelle corde, la première s'étant un peu relâchée pendant les deux premiers coups et ne lui paraissant plus suffisamment ronde. Puis il visa avec attention, et la foule attendit l'événement dans un silence inquiet. L'archer justifia l'opinion que l'on avait de son adresse. Sa flèche fendit la baguette de saule contre laquelle il l'avait dirigée. Un tonnerre d'acclamations s'ensuivit, et le prince Jean lui-même, dans son admiration pour l'adresse de Locksley, oublia pour un moment l'aversion que le yeoman lui avait inspirée.
« C'est vingt nobles, dit-il, que tu as si justement gagnés, ainsi que le corps de chasse, sont à toi. Nous les porterons à 50 si tu veux prendre service avec nous et te revêtir de la livrée d'un yeoman de nos gardes pour rester près de notre personne. Car jamais main plus forte n'a bandé l'arc, jamais si bon coup d'œil n'a guidé la flèche.
« Pardonnez-moi, noble prince, dit Locksley, mais j'ai fait vœu que, si jamais je m'enrôle, ce sera sous votre noble frère, le roi Richard.
Ces 20 nobles, je les laisse à Hubert, qui a lancé en ce jour une flèche aussi bien que son grand-père l'a fait à Hastings. Si sa modestie ne l'eût point fait refuser l'épreuve, il eût fendu la baguette aussi bien que moi. »
Hubert secoua la tête en recevant avec répugnance le don généreux de l'étranger. Et Locksley, voulant se soustraire à toute autre observation, se glissa dans la foule, où bientôt on le perdit de vue. L'archer vainqueur n'eût peut-être pas échappé si facilement à l'attention de Jean, si ce prince n'avait eu en ce moment d'autres sujets d'inquiétude, et l'esprit assiégé par des réflexions plus importantes. Il manda son chambellan en donnant le signal d'évacuer la lice, et lui commanda de partir sur le champ, au galop, pour Asby, et d'aller trouver Isaac le Juif.
« Dis à ce chien, dit-il, de m'envoyer avant le coucher du soleil 2000 couronnes. Il connaît l'hypothèque. Mais tu lui montreras cette bague comme un signe convenu. Le reste de la somme doit être payé à York dans 6 jours d'ici. S'il y manque, je prendrai la tête du mécréant. Et soin de passer sur la route qui suit sans doute l'esclave circoncis qui est allé tout à l'heure parmi nous ses parures volées. »
En disant ces mots, le prince monta à cheval et s'en retourna à Asby. Toute la foule se dispersa aussitôt après son départ.